France Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
Les plantes à fleurs représentent plus de 90% de la diversité végétale. Toutes ne produisent pas d'odeurs envoûtantes, certaines ne sentent rien, quand d'autres sentent la charogne. Pourquoi les fleurs répandent-elles leur parfum ? Chez nous autres, les humains, le parfum est un puissant moyen de communication et de séduction. C'est aussi le cas pour le reste du monde vivant. Si les fleurs odorantes ont développé leur fragrance, c'est pour se reproduire par zoogamie, par le biais d'animaux. Les roses sauvages ne diffusent leurs effluves qu'aux alentours de midi, lorsque leurs pollinisateurs sont les plus actifs. À l'inverse, le pétunia ne sent bon que le soir, pour attirer les papillons de nuit. Quant à l'arôme, lui, il répand une odeur d'excréments irrésistible pour les mouches. Comment ces usines à parfum, que sont les pétales, fonctionne-t-elle ? Biologie végétale, les fleurs se mettent au parfum. Sylvie Bodineau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, au laboratoire de biotechnologie végétale appliquée aux plantes aromatiques et médicinales.
C'est ça.
Et nous sommes également en ligne avec Benoît Boichon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de recherche CNRS à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici dans nos studios à France Culture. Et puis merci à vous d'être là au rendez-vous en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez aussi suivre cette émission en nous suivant sur Blue Sky. Vous verrez, on publie pour vous de nombreuses ressources complémentaires. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors pourquoi les plantes sont-elles les championnes des molécules odorantes? Quel est le rôle écologique du parfum des fleurs? Et comment étudier ces molécules volatiles? Nous sommes ensemble une heure pour humer ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour et le principe de base de l'olfaction.
La connaissance scientifique de l'odorat est certainement tout à fait en retard par rapport à la connaissance d'autres organes des sens comme celui de la vision ou de l'audition. Nous avons certainement une difficulté à dépasser l'émerveillement que nous avons à l'égard des possibilités mystérieuses du sens de l'odorat, et la littérature scientifique ou pseudo, enfin, parascientifique et pseudo-scientifique est pleine de performances remarquables des animaux, de notations concernant la perception humaine, qui ont malheureusement le grave défaut de ne pas pouvoir être confirmées, de correspondre à des observations ponctuelles sans études systématiques. Malgré tout, cette connaissance de l'olfaction se développe, ces dernières années elle s'est développée rapidement, malgré la difficulté technique qu'elle présente, un des problèmes principaux posés par l'olfaction, c'est la maîtrise des stimulus, des signaux olfactifs que l'on peut produire. Ces signaux sont difficilement reproductibles, difficilement mesurables et beaucoup plus difficiles donc à manipuler que les signaux visuels ou auditifs. Il y a peut-être également un certain désintérêt relatif des chercheurs à l'égard de cet organe sensoriel du fait de l'opinion selon laquelle cet organe aurait une utilité secondaire chez l'homme.
Voilà un extrait de l'émission Centre de gravité dans les après-midi de France Culture en 1979. Sylvie Bodineau, vous partagez le point de vue du professeur André Ollé qu'on attendait à l'instant et qui disait voilà qu'on a dévalorisé l'odorat par rapport à la vue.
Alors c'est vrai, c'était sûrement plus vrai encore à l'époque de l'archive. Je me souviens pas à quelle
79,
époque c'est. Voilà, 79. Donc en 79, c'était sûrement très vrai. Il y a eu beaucoup de progrès de fait. En 2004, je crois, si je me souviens bien, il y a quand même eu un prix Nobel pour les récepteurs olfactifs. Donc ça a donné tout un élan à la recherche sur ce sujet. Et maintenant, il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ça. Je pense que c'est pas vraiment un désintérêt. C'est juste que, effectivement, comme le dit l'archive, c'est plus facile de s'intéresser à la vision, hein, qui est le sens roi pour l'humain. Une des choses aussi que je pense qui empêche un petit peu qu'on s'intéresse à ça, c'est qu'on n'a pas un vocabulaire pour les odeurs. À part les parfumeurs, peut-être, qui ont un vocabulaire très spécifique. Nous, quand on fait référence à une odeur, ben, on fait toujours référence à autre chose. On va dire une odeur de rose, une odeur de banane, une odeur d'excrément. Voilà, on n'a pas un vocabulaire comme on peut dire qu'une odeur est rouge, bleue, verte, indépendamment de ce qu'elle représente. Donc ça, c'est un handicap. Par contre, ce qui a énormément progressé, c'est les techniques de recueil et de capture des odeurs. Donc ça, je pense qu'on peut plus dire que c'est quelque chose qui n'est pas à notre portée. Et la communauté qui s'intéresse à l'olfaction est grandissante, vraiment.
Et comme vous dites,
puis bon, avec le Covid, c'est sûr que ça a encore redonné un élan de regain d'intérêt pour ces recherches.
En effet, la privation de l'odorat. Et puis comme vous dites, prix Nobel de physiologie et de médecine en 2004 avec les travaux de Buck et Axel qui ont découvert les gènes qui encadrent le développement des récepteurs olfactifs. Des travaux qui ont eu lieu en 91, on y reviendra. Mais d'abord, Benoît Boichon, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive sur... Voilà, le fait d'étudier comme ça ces molécules odorantes, c'est plus difficile à étudier. Enfin, du moins, ça l'a été longtemps.
Ah ouais, je pense que... Oui, voilà, je pense que Sylvie a bien résumé la chose et que pendant longtemps, on s'est moins intéressé aux molécules volatiles parce que c'était pas facile de les étudier. Je pense que les écologues ont plus regardé en fait l'attraction des fleurs par rapport à leur couleur, leur forme pour les insectes que à essayer de comprendre s'il y avait des molécules volatiles qui pouvaient les attirer. Et au fur et à mesure, et ben on a développé ces méthodes là et on peut beaucoup plus facilement les analyser, les identifier, même si beaucoup sont inconnus. On a des belles librairies où on peut reconnaître ces composés. Et donc, je pense que là-dessus, on a fait un grand chemin. Et puis, il y a eu le développement aussi de la génétique et des premiers génomes de plantes qui ont été publiés. Et on a pu aller chercher les gènes qui étaient responsables de la synthèse de ces composés.
Sylvie Bodineau, alors c'est pas votre spécialité, mais on peut revenir quand même sur le principe global de l'olfaction chez l'humain. Comment fonctionnent nos récepteurs olfactifs?
Oui, alors les neurobiologistes qui sont mes collègues me corrigeront si je dis des grosses bêtises, parce que c'est vrai que c'est pas ma spécialité, mais en gros, hein, au fond de notre cavité nasale, on a ce qu'on appelle une muqueuse olfactive, un épithélium olfactif, et à la surface de cet épithélium, il y a des neurones. Et sur ces neurones, hein, qui sont donc des cellules qui sont présentes en grande quantité, les cellules nerveuses, à la surface de ces neurones, sur la membrane, on a ce qu'on appelle des récepteurs olfactifs. Hein, et c'est vraiment ça que Axel et Burke ont découvert en 2005. Enfin, ils ont été récompensés pour ça en 2005. Et donc, en fait, comment ça fonctionne? De manière finalement relativement simple, on a des molécules volatiles, donc ça veut dire qu'elles s'évaporent à température ambiante. Elles vont cheminer pour aller jusqu'à notre épithélium olfactif, donc au fond de notre nez, et elles vont s'accrocher à ces récepteurs. Donc, une fois qu'elles s'accrochent à ces récepteurs, les neurones vont être activés, le signal va être transmis à d'autres régions du cerveau. Donc, d'abord une région très importante qui s'appelle le bulbe olfactif, où là, tous ces neurones vont se regrouper. Hein, les projections de ces neurones vont se regrouper. Et ensuite, de là, du bulbe olfactif, le signal va être transmis dans des régions supérieures du cerveau. Et c'est là où vous allez avoir les phénomènes de mémorisation, d'émotion, de récompense, etc. Circuit de la récompense. Voilà. Après, ça devient très, très complexe. Mais la base, c'est un petit peu ça. Et en fait, donc, ces récepteurs olfactifs, il y en a à peu près, je crois, 400 chez l'homme. Chaque récepteur est capable de recevoir, si vous voulez, d'accrocher une ou plusieurs molécules. Et en même temps, une molécule, elle est capable de s'accrocher à un ou plusieurs récepteurs. Et donc, si vous voulez, on peut faire une analogie, hein, qui est faite souvent un petit peu comme un accord de piano. Vous allez avoir une molécule, elle va allumer tel et tel récepteur, un petit nombre, et ça va donner, c'est ça qui va donner l'image de l'odeur et qui va transmettre un signal spécifique aux régions supérieures du cerveau. Alors évidemment, c'est plus compliqué quand il y a plusieurs molécules qui sont ensemble. C'est souvent le cas, hein, les odeurs de fleurs, c'est des mélanges, c'est pas une molécule. Mais en gros, c'est ça. Hein, c'est un petit peu comme un accord de piano.
Voilà, une partition complexe. Et puis, une découverte surprenante en 2003, hein, ces récepteurs olfactifs, on les trouve dans l'épithélium nasal, mais ils sont aussi exprimés à la surface des spermatozoïdes, où ils semblent jouer un rôle dans la capacité à se diriger vers l'ovule. Mais Sylvie Bodino, vous dites chez l'humain à peu près 400 récepteurs olfactifs. À quel point ces récepteurs sont-ils répandus dans le monde vivant?
Alors, des récepteurs olfactifs, il y en a évidemment chez les mammifères, hein, et là, le nombre de récepteurs est variable. Hein. Alors, on cite toujours l'éléphant, qui en a à peu près 2000, le chien, je ne sais plus, ça doit être quelque chose comme 600, c'est plus que l'homme. Et puis, vous avez des animaux qui en ont encore moins. Donc ça, c'est les mammifères. Après, il y a aussi des récepteurs olfactifs chez les insectes. Donc les insectes, ils n'ont pas de nez, mais ils ont des antennes. Et à la surface de ces antennes, eh bien, vous avez des petites sensilles, des petits cils, à la surface desquels vous avez aussi des neurones qui ont ces récepteurs olfactifs. Alors, ils n'ont pas exactement la même structure, les récepteurs olfactifs chez les insectes, mais c'est, on peut quand même parler de récepteurs olfactifs, c'est-à-dire que ça fonctionne à peu près de la même façon.
Ça veut dire
voilà. Et quant au fait qu'il y en ait sur les spermatozoïdes, là, j'ai aucune idée de qu'est-ce que ça peut bien faire.
En tout cas, c'était
quel est leur rôle.
Ma surprise, étude parue dans Science.
Oui, c'est vrai, il y a une étude, ouais, j'avais lu ça, et oui.
Voilà,
étrange, mais voilà.
Je disais que les cétacés sont pratiquement dépourvus d'odorat, mais ça veut aussi dire qu'il y a donc des odeurs qu'on ne peut pas sentir également, Sylvie Bodino.
Alors, tout à fait, c'est vrai que chaque organisme est capable de réagir, de sentir, si vous voulez, un certain nombre de molécules, mais pas toutes. Il y a plein de molécules que l'homme ne sent pas, ou que le chien ne sent pas, et que les insectes sentent, et vice-versa. Alors, pourquoi nous, on est effectivement sensibles aux odeurs des fleurs? Ça, je ne sais pas, c'est sans doute le hasard, mais il y a des molécules auxquelles on n'est pas sensible. Par exemple, le CO2, on n'est pas capable de le percevoir.
Contrairement aux moustiques.
Voilà, contrairement aux moustiques. Donc, il y a des molécules qui sont émises en très, très grande quantité par les plantes. Hein. Il y a une molécule qui est l'isoprène, par exemple. Ça, c'est les forêts, les arbres, elles émettent une molécule qui est un terpène en quantité astronomique, c'est des tonnes par an. Et cette molécule-là, on ne la sent pas. Hein, imaginez si on la sentait, elle recouvrirait tous les parfums du monde.
Voilà, cette question de l'olfaction, ça fonctionne vraiment en deux parties, avec des clés, entre guillemets, des serrures, des molécules émises et des récepteurs. Benoît Bouachon, côté molécules émises, on a quand même une grande famille de molécules en fonction de leur structure chimique.
Oui, tout à fait. Surtout chez les plantes, hein, qui ont une grande diversité, qui ont développé ça au cours de l'évolution. On a trois grandes familles, on va dire biochimiques, avec des sources en fait différentes et des voies de biosynthèse. Et on retrouve à peu près les trois plus grandes, les terpènes dont Sylvie a parlé. Hein. Et les terpènes, c'est la plus grande famille de molécules qu'on retrouve dans le milieu naturel et on en connaît certaines, hein, par exemple les caroténoïdes ou encore des molécules qu'on va retrouver chez la menthe ou l'odeur de menthe, le menthol, le citronellol, ce genre de choses. On a aussi des dérivés d'acides aminés comme la phénylalanine et le phényléthanol et ce genre de choses. Et on a encore enfin des dérivés d'acides gras et c'est qu'on appelle les green leaf volatiles. Alors, je ne sais plus trop en français, mais c'est un peu cette odeur qu'on entend d'herbe coupée, qu'on sent très fort l'été quand la tondeuse vient d'être passée.
On essaye justement de cartographier toutes ces relations molécules-récepteurs, Sylvie Bodino. On parle même de désorphaniser comme des orphelins, c'est ça?
Oui, alors c'est vrai que ces 400 récepteurs, on ne sait pas quelles molécules ils sont capables d'accrocher, hein, de fixer. Et c'est tout un grand travail des biochimistes et surtout des neurobiologistes de mettre une molécule sur chaque récepteur et chaque récepteur face à toutes les molécules qu'il peut fixer. Et c'est ça qu'on appelle désorphaniser. Ça veut dire qu'un récepteur, tant qu'on ne lui a pas trouvé une molécule qui s'accroche, eh bien, il est orphelin de ses molécules. Hein, il n'a pas de molécules. Donc c'est tout un travail et ça, c'est vraiment un champ qui est en pleine en pleine expansion et vraiment, je pense que dans quelques années, ce sera fait, surtout que les industriels s'intéressent aussi beaucoup à ça et ils ont des moyens d'avancer très très vite.
Et on reviendra également sur les applications et pourquoi les industriels s'y intéressent. Mais d'abord, pour comprendre comment ces parfums sont émis par des fleurs, il va falloir rentrer dans le détail de la chimie cellulaire. Comment ces molécules odorantes sont-elles synthétisées puis émises? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Direct sur France Culture avec Sylvie Bodineau et Benoît Boichon, nous parlons du parfum des fleurs. Un sujet complexe puisque les odeurs, qu'elles proviennent de fleurs, d'animaux ou du monde inerte, sont toujours mal comprises, perçues différemment en fonction des sensibilités individuelles. Du côté des fleurs, maintenant on peut voir comment sont-elles produites. Déjà, Benoît Boichon, les composés volatiles des fleurs, ce n'est pas quelque chose d'exclusif au monde végétal. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre.
Non, tout à fait. On les retrouve synthétisés aussi par certains insectes ou certains animaux. Mais c'est vrai que les fleurs ont évolué avec la capacité de produire une diversité assez importante en fonction des familles de fleurs et de plantes.
Alors, comment ça se passe du côté du métabolisme, Sylvie Bodineau, justement?
Alors, là, on rentre un petit peu dans des choses plus complexes pour remettre un petit peu en contexte, dans un contexte plus large, ces odeurs de fleurs. L'émission des odeurs de fleurs, ça fait partie de l'écologie chimique, qui est tout ce que font les organismes vivants pour communiquer entre eux ou entre d'autres espèces grâce à des molécules chimiques. Alors, ces molécules chimiques, elles sont pas forcément volatiles, hein. Ça peut être des molécules, par exemple de la défense, des alcaloïdes, ça c'est pas quelque chose de volatile. Mais les odeurs des fleurs en font partie. Et ces molécules, elles sont synthétisées par les plantes. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le métabolisme spécialisé. Alors, pourquoi métabolisme spécialisé? Avant, on appelait ça le métabolisme secondaire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un métabolisme primaire. Alors, le métabolisme primaire, c'est ce que la cellule, ce que l'organisme fabrique pour former tous ces constituants indispensables, si vous voulez, les sucres, les acides aminés, les protéines. Voilà, toutes les espèces le font à peu près de la même façon et on ne peut pas s'en passer. Maintenant, le métabolisme secondaire, qu'on appelle plus secondaire, parce que maintenant on trouve que c'est péjoratif, c'est tout ce qui est un petit peu spécial, c'est-à-dire tel groupe d'organismes va se spécialiser et produire telle ou telle molécule. Et tout ce métabolisme spécialisé, il est spécialement riche chez les plantes. C'est vraiment les championnes de ça. Donc ça varie en fonction des différentes plantes, des familles, des différents organismes. C'est pas que ce métabolisme n'est pas très important pour les organismes qui les produisent, c'est juste qu'il n'est pas général, si vous voulez. Mais ce métabolisme, il va servir aux plantes et à tous les organismes pour leurs interactions avec les autres organismes, mais également pour s'adapter à leur environnement. L'environnement abiotique, la température, la sécheresse, etc. Donc c'est vraiment un métabolisme fondamental et qui est de plus en plus étudié. Et cette discipline de l'écologie chimique, nous, elle nous est un petit peu chère avec Benoît et avec les autres membres du laboratoire. On fait partie de réseaux, on a un réseau de Français de laboratoires qui travaillent sur cette écologie chimique. Le GDR d'écologie chimique, je les cite parce que je sais que ça leur fera plaisir. Et puis on a même un réseau européen qui s'appelle INICH, dans lequel on étudie... Alors, pas seulement les plantes, mais toutes ces interactions et cette écologie chimique.
En tout cas, sur la fleur, toutes les parties de la fleur sont susceptibles de produire des composés volatiles. Mais Benoît Boichon, où se trouve le centre d'émission du parfum?
Alors, principalement, c'est les pétales, même si on peut retrouver quand même de l'émission dans les anthères et les pistils. Mais les fleurs ont cette particularité d'avoir des cellules un petit peu spéciales, normalement, avec en fait une structure en fait en cône qui va un petit peu augmenter la surface en fait de diffusion, alors que par exemple une cellule de feuille va être un peu plus plate, par exemple. Et ça, c'est très particulier aux pétales.
C'est ça, quand la fleur s'ouvre, c'est les pétales qui vont émettre, Sylvie Bodineau.
Oui, Absolument, surtout qu'il y a des fleurs, vous avez des fleurs qui ont beaucoup de pétales, donc en masse, le parfum qui va être émis par les pétales va être très important. Mais c'est vrai, comme le dit Benoît, que les étamines peuvent aussi émettre des composés volatiles. Et puis quand la fleur est en bouton, quand elle est fermée, hein, elle est en quelque sorte protégée par des petits organes verts qu'on appelle des sépales. Et là, ces sépales, ils sont plutôt faits, s'ils émettent des odeurs, c'est plutôt pour repousser les agresseurs. Alors, ce serait quoi des agresseurs ? Ben, ce serait un insecte herbivore qui voudrait manger le bouton. Voilà, donc ça, la fleur, c'est pas son intérêt de se faire manger. Et donc, elle va émettre des composés plutôt répulsifs, hein, qui vont repousser les insectes. Et puis, quand elle va s'ouvrir, ben là, c'est les pétales qui vont prendre le relais et qui vont, en quelque sorte, guider les insectes, alors à longue ou à courte distance. Pour les étamines, ce qui a été montré aussi, ben, c'est que ça peut effectivement attirer les insectes, mais ça peut aussi avoir un effet antimicrobien, par exemple. Empêcher que les organes reproducteurs, donc les étamines, c'est les organes reproducteurs mâles, soient attaqués par des bactéries ou des champignons. Voilà. Et donc là, il y a des molécules qui sont des molécules de défense, qui vont protéger en quelque sorte les précieux organes reproducteurs de ces fleurs.
Benoît Boichon, comment se déroule la synthèse de ces composés volatiles, de ces molécules que...
Alors là, on rentre dans le dur.
Allez, c'est parti.
Comme l'expliquait Sylvie, en fait, ça vient du métabolisme spécialisé. Hein. En gros, le métabolisme primaire, il va utiliser les plantes, elles utilisent le carbone, le CO2 de l'atmosphère pour construire des sucres et compagnie, des petites briques pour faire des protéines et ainsi de suite, toutes les molécules indispensables à la vie. Et ces molécules, elles vont être détournées par des voies de biosynthèse bien particulières avec de nombreuses étapes et des enzymes en fait qui vont modifier les molécules jusqu'à produire en fait ces petites molécules, hein, c'est pas beaucoup de carbone, qui sont assez lipophiles, hein, qui sont assez légères aussi et qui font que elles sont en fait volatiles en fait, qu'elles puissent être s'envoler dans l'atmosphère et aller attirer les insectes.
Mais voilà, c'est un cycle complexe qui associe plusieurs réactions enzymatiques, Sylvie Bodineau, et on distingue trois principales voies cellulaires impliquées justement dans ces composés organiques volatiles au niveau des fleurs uniquement.
Alors,
mais pas seulement.
Vous voulez dire les familles biochimiques.
Exactement.
Voilà, donc il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a les terpènes. Alors les terpènes, la spécialité chez les plantes, c'est qu'elles sont faites par deux voies différentes. Une voie qui a lieu dans les chloroplastes, hein, qui sont les petits organes verts, les petits organelles verts qui font la photosynthèse. Donc il y a une partie de la synthèse des molécules volatiles qui se fait dans ces chloroplastes. Et puis il y a une autre partie qui se fait, si vous voulez, dans la cellule, ce qu'on appelle le cytoplasme. Donc ça, c'est spécial aux plantes. Hein, chez les humains, c'est simplement la voie du cytoplasme qui est active. Et dans ces deux compartiments, eh bien, vous allez avoir des enzymes, des étapes enzymatiques qui vont conduire souvent d'un précurseur, donc une molécule de départ, si vous voulez, à l'origine, qui, elle, n'est pas volatile. Elle va subir des transformations chimiques, tout un tas de transformations chimiques. Alors, ça peut être des dizaines de réactions ou ça peut être plus simple, ça peut être trois réactions. Et ça va produire une molécule volatile. Et cette molécule volatile, eh bien, elle va sortir de la cellule. Et là, c'est quelque chose qu'on connaît vraiment très, 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 très mal.
Voilà, ça, c'est la grande question, le mystère, justement, des mécanismes de l'émission, Benoît Boichon. Comment, justement, ces composés organiques volatiles parviennent-ils à traverser la membrane cellulaire ? Ça, on ne le comprend pas du tout.
Alors, on commence à le comprendre, hein, depuis une dizaine d'années, on va dire que décrire les gènes de biosynthèse et les enzymes, là il y a eu un travail qui a été fait pendant une trentaine d'années, et en fait pendant longtemps on a cru que ces petites molécules, en fait, elles diffusaient simplement à travers la membrane et les différentes parois ou barrières qu'elles doivent franchir pour arriver jusque dans l'atmosphère, et donc il y a eu pas mal de théories, notamment aussi des calculs et des modèles qui ont montré que, en fait, ça ne pouvait pas se faire par diffusion passive. Sinon, en fait, ces molécules, souvent qui sont assez toxiques, hein, comme disait Sylvie, elles sont aussi là pour la défense, et ben, elles allaient être dangereuses et toxiques, en fait, pour les membranes. Et donc, on a cherché et on a trouvé un transporteur, par exemple, qui permet à ces molécules de traverser la membrane plasmique, hein, qui est composée de double couche de phospholipides, donc très, très lipophiles. Et ces composés-là, on a réussi à montrer qu'ils passaient par des transporteurs. Et derrière, ensuite, il y a d'autres enzymes qui aussi ont été montrées dont on a pu montrer qu'elles prenaient en charge ces molécules pour les emmener jusqu'à la cuticule. La cuticule, c'est la dernière couche de l'épiderme des fleurs et qui est composée principalement de cire, d'acide gras et qui est très lipophile. Et on a également montré que cette couche, elle était très importante, en fait. Elle permettait un peu de faire un réservoir de ces molécules et jusqu'à un certain seuil qu'il faut atteindre pour que ces molécules puissent ensuite être émises dans l'atmosphère.
Voilà, donc en fait, ces composés organiques sont escortés à travers la cellule et sa membrane par des protéines de transport dédiées, comme vous dites. Mais alors aussi, autre question, c'est du côté de la réception. Ce qu'on comprend pas bien, il me semble, c'est comment les plantes elles-mêmes réceptionnent ces composés volatiles. Benoît Boischon.
Oui, c'est vrai. Alors, ça dépend quelles molécules. Il y a certaines molécules dont on connaît des choses depuis longtemps, par exemple l'éthylène, qui est une hormone qui fait partie des quelques grandes hormones que les plantes utilisent pour la croissance et compagnie. Donc ça, on sait qu'il y a des récepteurs, c'est connu depuis longtemps, et on l'utilise d'ailleurs dans l'industrie. Par exemple, les bananes qui sont acheminées, elles sont coupées avant d'être mûres et transportées par cargo. Ensuite, elles reviennent ici et elles sont mises dans des chambres, on met de l'éthylène et ça leur permet de mûrir. Ça, on connaît. Par contre, comment les plantes, entre elles vont, on va dire, percevoir les molécules d'une ou telle plante, ça, on connaît très, très peu encore.
Sylvie Bodino.
On commence à travailler dessus.
Oui, oui.
On n'a pas de...
Oui, c'est des choses qui sont travaillées au labo. Hein. Benoît on peut en parler mieux que moi, parce que c'est un de ses sujets de recherche en collaboration avec un laboratoire américain. Donc, on travaille à la fois sur ces sujets-là, mais aussi sur le sujet de la sécrétion, l'émission des composés volatiles, comment ils voyagent dans la cellule. Ça, c'est des sujets qu'on a avec ce laboratoire américain. Oui, c'est un grand mystère. Et ce serait très intéressant parce qu'en fait, évidemment, les plantes, elles n'ont pas d'oreilles. Ça c'est sûr, mais on pense qu'elles ont des récepteurs à la surface de leur membrane. C'est juste que dans la plupart des cas, on n'a pas encore trouvé ces récepteurs pour toutes les molécules. Mais là aussi, c'est quelque chose qui va être très intéressant. Je ne sais pas, il y a par exemple des plantes parasites qui se guident grâce aux odeurs. Je pense à l'exemple de la cuscute, qui est une plante parasite, qui parasite en plein de plantes, mais en particulier la tomate. Et c'est travaillé par une collègue suisse. Et ils ont montré que, en fait, cette cuscute, quand elle germe, en fait, elle n'a pas les réserves qu'il faut. Et il faut qu'elle trouve très, très vite son hôte. Elle a très peu de temps. Et si elle ne le trouve pas tout de suite, elle va mourir. Et donc, du coup, elle se guide à l'odeur de sa plante hôte. Donc, par exemple, si elle a une tomate qui est à côté, elle va percevoir les odeurs émises par cette tomate et elle va se diriger, elle va grandir vers la tomate, elle va s'accrocher dessus et elle va la parasiter. Et ça a été montré que c'était vraiment les odeurs qui attiraient cette plante. Donc, ce serait très intéressant de savoir qu'est-ce qui réceptionne ces odeurs de tomates à la surface de la cuscute, bien sûr.
Et on va continuer de parler justement de ces modes de communication entre guillemets dans le monde végétal et comment le parfum est-il justement un moyen de communication dans le monde vivant. Restez avec nous, on y arrive. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. The time was still approaching for I couldn't stand it anymore. So Mary goes upon my eiderdown. I'm just sitting watching flowers in the lane. Feel the power of the rain. Sound. I pushed my head into the ground in time to catch the sight that I was seeking. I'm just sitting watching flowers in the rain. Feel the power of the rain making
The Move, Flowers in the Rain, en direct sur France Culture. Car nous faisons un peu de botanique, de biologie végétale et nous parlons du parfum des fleurs. En compagnie de nos deux invités du jour, Sylvie Bodineau, professeure émérite à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne, au laboratoire de biotechnologie végétale appliquée aux plantes aromatiques et médicinales, et Benoît Boichon, ingénieur de recherche CNRS à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Alors, ces angiospermes, ces plantes à fleurs, représentent 90% des espèces végétales connues. Cette immense diversité, c'est l'un des plus grands succès de l'histoire évolutive. Darwin avait d'ailleurs du mal à comprendre l'apparition évolutive des fleurs, ce qu'il qualifiait d'abominable mystère. Alors sait-on, quand est-ce que la planète s'est-elle offerte des fleurs et des fleurs odorantes?
Alors, on ne sait pas exactement l'origine. Il y a encore des petits mystères, comme avait dit Darwin sur l'origine. Mais en gros, on pense que vers 140 millions d'années, 130, 140 millions d'années, on commence à avoir les premiers fossiles bien caractérisés. Alors après, il y a d'autres méthodes pour connaître l'origine. Il y a des méthodes plus moléculaires, hein, des méthodes qui font intervenir l'horloge moléculaire. Et là, ces méthodes qui font intervenir l'horloge moléculaire, elles donnent une origine encore plus ancienne. Donc il y a encore une petite controverse là-dessus. Ça veut peut-être dire tout simplement qu'on n'a pas encore trouvé les fossiles les plus anciens. Voilà, ça peut être quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et ce qui étonnait Darwin, c'est que entre 140 et 90 millions d'années, il y a eu une explosion incroyable de ces angiospermes, avec, comme vous le disiez, une diversité identique à celle qu'on a actuellement. Hein. Donc, elles ont véritablement explosé, envahi toute la Terre, surmonté toutes les autres plantes. Et ça, alors il y a des hypothèses, on ne l'explique pas encore complètement. Alors, une des explications, bien sûr, c'est toutes les innovations que ces plantes à fleurs ont mis en place. Donc, la fleur, bien sûr, ça, c'est une innovation. Et cette fleur, ça lui a permis d'attirer les pollinisateurs. Je pense qu'on va en reparler, bien sûr, avec cette coévolution. Mais il y a aussi d'autres phénomènes. Par exemple, les plantes à fleurs, elles ont aussi inventé le fruit. Et le fruit, c'est un moyen pour les graines de se disperser. Hein, les plantes qui étaient avant les angiospermes, les gymnospermes, elles n'avaient pas de fruits. Hein, elles avaient des graines, mais elles n'avaient pas de fruits. Et donc, cette dispersion des fruits par les mammifères, par les oiseaux, ça aussi, c'est sûrement une des clés du succès très, très importante.
En effet, le plus ancien fossile de plantes à fleurs dont on dispose, découvert en Chine, est daté de 125 millions d'années. Et puis, on a un fossile aussi qui nous intéresse encore plus dans le cadre de la pollinisation. 2019, un petit insecte, coléoptère, qui est décrit dans de l'ambre birmain. Et alors, lui, il date du début du Crétacé supérieur, il y a environ 99 millions d'années. Et il porte sur ses poils une soixantaine de graines de pollen.
Oui, mais je pense que c'est plutôt un gymnosperme des conifères de gymnosperme. Donc ça veut dire que la pollinisation et les interactions entre les insectes et les plantes étaient là avant les plantes à fleurs. Il y a des gymnospermes qui sont les plantes les plus anciennes, qui étaient là avant. Elles avaient déjà des interactions avec les insectes. Les cicases, par exemple, ils sont déjà pollinisés par des insectes. Mais oui, on peut retrouver dans l'ambre fossilisés des insectes avec du pollen. Et ça prouve bien que déjà, ces interactions, elles sont très, très anciennes.
Alors ces interactions, en effet, si les fleurs sentent bon, enfin pas toutes, certaines ne sentent donc rien, mais ces fleurs, c'est une stratégie de reproduction. C'est avant tout pour que ces odeurs attirent et guident les pollinisateurs jusqu'à l'organe reproducteur, Sylvie Bodineau.
Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est pour la pollinisation. La pollinisation, c'est le transport du pollen d'une fleur à une autre. Alors pourquoi la plante elle a besoin de transporter le pollen d'une fleur à une autre? Vous allez me dire, une fleur ça a à la fois le côté mâle et le côté femelle. Je vous ai dit, il y a des étamines, il y a un pistil. Mais en fait, c'est la stratégie de faire de la pollinisation croisée, c'est-à-dire de un pollen qui féconde une autre fleur, et ça a un avantage adaptatif. Alors bien entendu, les plantes elles savent faire souvent, mais pas toujours, de l'autofécondation, c'est-à-dire leur propre pollen féconde leur propre pistil, mais c'est pas une stratégie évolutive qui a été très très utilisée et du point de vue évolutif, c'est plus intéressant d'avoir une pollinisation croisée parce que ça permet une diversité de gènes dans la population. qui fait que les plantes qui font cette pollinisation croisée, eh bien, elles s'adaptent beaucoup mieux au changement de l'environnement. Donc, elles ont besoin de quelque chose qui transporte le pollen. Et en fait, bon, il y a plein de façons de transporter le pollen. Ça peut être le vent, ça peut être l'eau, enfin, voilà. Mais souvent, c'est les animaux. Hein. Dans la plupart des cas, alors je ne sais plus le pourcentage, mais très souvent, ce sont les animaux qui sont très efficaces. C'est beaucoup plus efficace que le vent, hein, des animaux pour transporter le pollen. Et donc, y a eu toute une évolution parallèle. Hein. On parle, voilà, les gens qui font de l'évolution parlent de coévolution entre les insectes, pour la plupart, et les plantes à fleurs. Ils se sont diversifiés à peu près en même temps, et il y a eu souvent cette coévolution. Donc, cette coévolution, une adaptation mutuelle pour rendre la pollinisation plus efficace.
Mais d'ailleurs, par rapport à ces modes de dispersion du pollen par le vent, on voit que ce sont des plantes à fleurs qui ne produisent pas de parfum. Parce qu'elles n'en ont pas besoin, finalement, c'est ça ?
Alors, elles n'en ont pas besoin, non, tout à fait. Par contre, leurs feuilles peuvent produire des parfums pour se défendre. Mais leurs fleurs, les fleurs qui sont transportées par le vent, typiquement, c'est par exemple les graminées, hein, les céréales. Et ces céréales, eh bien, elles ont des fleurs toutes petites. Quand on les regarde, on ne voit même pas que ce sont des fleurs. Et donc, elles n'attirent pas, évidemment, les pollinisateurs.
On a donc, la plupart des pollinisations, on parle de réciprocité, un échange de services et de ressources. Sylvie Bodino, autre stratégie, pour d'autres espèces, on parle de pollinisation par tromperie. Et ça, c'est un concept que j'aime beaucoup et c'est un concept que vous étudiez également.
Oui. Alors en fait, c'est vrai que dans la majorité des cas, dans la grande majorité des cas, on parle de mutualisme, c'est-à-dire que la plante, elle a un bénéfice, hein, son pollen est transporté, et l'insecte a une récompense, qu'on appelle une récompense. Alors ça peut être sous la forme de pollen, certains insectes mangent du pollen, mais ça peut être aussi sous forme de nectar, donc qui est ce liquide sucré qui est dans les fleurs. Donc l'insecte a une récompense. Mais certaines fleurs ne produisent pas cette récompense, ne donnent ni pollen ni nectar. Et donc, elles s'arrangent pour que l'insecte fasse quand même le travail et vienne quand même les polliniser. Alors, c'est le cas, par exemple, de certaines orchidées. Les orchidées comme les ophrys, hein, des ophrys qu'on peut trouver chez nous, hein, dans nos prairies. Ce sont des orchidées qui ont des toutes petites fleurs, mais ces toutes petites fleurs, elles ressemblent beaucoup à des insectes. Et en fait, là, on a une tromperie, c'est-à-dire que là, la fleur ressemble à un insecte femelle, donc visuellement, elle ressemble avec des poils, enfin, ça ressemble vraiment, en tout cas, l'insecte le pense. Et même l'odeur qui est émise par ces orchidées mime et ressemble à la phéromone, donc au parfum d'une femelle. Donc les insectes mâles qui sentent cette odeur et qui voient cette orchidée qui ressemble à un insecte se précipitent. Ils font ce qu'on appelle une pseudo-copulation, c'est-à-dire qu'ils essaient de s'accoupler avec la fleur. Bon, ils se rendent bien compte que c'est pas ça. Donc ils repartent et ils vont vers une autre fleur en se disant que peut-être c'est une femelle. Et comme ça, voilà, les fleurs sont pollinisées.
On continue de parler de pollinisation avec des insectes, des fleurs et le reportage du jour. Les odeurs émises par les plantes à fleurs sont captées par nombre d'insectes pollinisateurs à travers des voies de communication qui s'étudient à l'échelle moléculaire jusqu'au comportement des individus. Et on continue d'en parler avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha.
Alors pour découvrir ces méthodes d'études, vous avez butiné du côté de l'Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris.
Oui, exactement, pour découvrir des méthodes qui croisent anatomie, physiologie et génomique. On peut alors identifier les mécanismes de reconnaissance des odeurs chez les insectes pollinisateurs. On voit par exemple comment ils modulent leur trajectoire de vol vers les fleurs à butiner. C'est la neuroéthologie de l'olfaction que met en pratique le chercheur Mathieu Daché dans ses expériences. Alors, dans des tunnels de vol, par exemple, ils diffusent des odeurs à des concentrations et des directions variées par des olfactomètres. Ensuite, il peut analyser par trajectomètre comment l'insecte optimise son vol, une méthode qui veut simuler le naturel pour mettre en évidence certaines fonctions cognitives.
Ça, c'est surtout des études où on élève des drosophiles. Des drosophiles sont des toutes petites
grand modèle
niches.
En biologie.
Absolument, notamment en génétique. Là, vous voyez un tube avec des larves et des pupes de drosophiles, c'est-à-dire des asticots drosophiles qui en sont en train de se métamorphoser en drosophiles adultes. Il y en a quelques-unes en haut.
Ah, oui.
Et en bas, c'est le milieu de culture dont elles se nourrissent. Et l'idée, c'est que comme on maîtrise parfaitement leur génétique, il est possible, dans ce fameux nerf anténaire, dans ces fameux récepteurs anténaires de la drosophile, on peut parfaitement faire disparaître le récepteur normal de leur neurone, puisqu'on connaît le gène de ce récepteur et qu'on peut contrôler son expression. On l'enlève et à la place, on peut mettre le gène olfactif de n'importe quel insecte. On peut enregistrer le gène olfactif de n'importe quel insecte dans l'antenne de la drosophile.
Donc la drosophile, potentiellement, pourrait être capable de reconnaître une odeur de plante ou une phéromone ou...
Absolument, absolument. Alors, naturellement, ce n'est pas du tout une situation naturelle, ouais. c'est un modèle de laboratoire, mais l'intérêt, c'est d'étudier une fonction. Grâce aux outils génétiques modernes, on peut avoir accès aux gènes de n'importe quel insecte. Une fois qu'on a trouvé les gènes de l'olfaction, on peut les faire exprimer dans l'antenne de drosophile et donc caractériser tous ces gènes d'olfaction de façon routinière. En deuxième intention, on peut faire de l'imagerie calcique, c'est-à-dire enregistrer le cerveau de l'insecte. Et enfin, on peut observer le comportement, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors pourquoi étudier la perception des odeurs chez les insectes ? Il y a deux raisons. Une raison fondamentale et une raison appliquée. La raison fondamentale est que l'olfaction s'effectue, et c'est assez spectaculaire, par des mécanismes qui sont finalement assez semblables. Pour rentrer un petit peu dans les détails, comme chacun sait, chez un mammifère comme un être humain, les odeurs vont être perçues au niveau du nez, plus spécifiquement au niveau de neurones qui sont situés dans la muqueuse du nez. Chez les insectes, on va trouver des neurones qui sont un peu semblables et qui sont situés non pas dans le nez parce qu'ils n'en ont pas, mais au sein à la surface de leurs antennes, dans des petites structures en forme qui sont souvent en forme de poils, même si ce ne sont pas des poils, et qu'on appelle des sensilles. À l'intérieur de ces sensilles ou de la muqueuse de notre nez, donc, on va trouver des neurones à la surface desquels on va trouver des récepteurs aux molécules de l'environnement. C'est-à-dire que les molécules de l'environnement peuvent brièvement s'associer, s'attacher au récepteur du neurone, et ce faisant, le neurone détecte cet attachement de la molécule de l'environnement et réagit.
Les insectes, par exemple, les papillons de nuit ou les abeilles, ont un système nerveux central qui peut traiter l'information comme nous.
Absolument. Et lorsqu'on regarde l'organisation de leur système nerveux central pour la perception des odeurs et que l'on regarde la nôtre, on se rend compte que c'est très semblable avec une structure qui s'appelle le lobe anténaire et qui est située à la base de leurs antennes. Donc l'organisation de la perception des odeurs est relativement similaire entre les insectes et les mammifères.
Alors, voilà. Le tunnel de vol.
Voilà, alors là.
Sous vitre.
Alors, inconvénient, il est occupé parce qu'on ne s'en sert pas. Avantage, ceci est un olfactomètre. Un olfactomètre Calvois.
D'accord.
Voilà, donc c'est une boîte.
Sorte de plateforme.
Exactement. Donc c'est une.
Avec des canaux.
Voilà, les canaux. À l'intérieur, on met des petits systèmes de soufflerie qui envoient de l'air en passant au-dessus d'un flacon où on a mis une odeur. Soit l'odeur pure, soit plus fréquemment une odeur qui a été en partie diluée pour connaître la concentration de l'odeur et qui va être soufflée doucement à l'intérieur de cet olfactomètre. Et sous l'olfactomètre, il y a un orifice central qui va venir aspirer l'odeur qui rentre dans l'olfactomètre de façon à créer des flux d'air constants. Au début, on place l'animal dans l'olfactomètre sur une petite grille pour pas qu'il soit aspiré dans le tube. Et on voit, alors que les odeurs sont exposées, où est-ce qu'il va se déplacer.
Et quels sont les types de molécules en dehors des phéromones que vous pouvez tester ici ? Est-ce que des...
Alors, des molécules qui sont...
Des volatiles.
Voilà, toutes... On peut en théorie tester n'importe quelle molécule, mais de façon plus spontanée. On va s'intéresser à ce qu'on appelle dans notre jargon des composés volatiles de plantes, c'est-à-dire n'importe quelle molécule qui est produite au niveau d'une fleur, d'une feuille, et qui est susceptible de se retrouver dans une certaine concentration dans l'air. C'est-à-dire, ce que je viens de donner, c'est la définition d'une odeur. Et vous avez ici aussi donc le tunnel de vol. Fondamentalement, c'est la même logique qu'un olfactomètre. On a de l'air, mais là, c'est carrément l'air qui est dans toute la pièce, qui est aspiré à travers un filtre et qui va servir à où là, l'animal dans l'olfactomètre va surtout marcher ou se déplacer, ils ne peuvent pas trop voler. Il y en a beaucoup plus petits pour les drosophiles, par exemple. Mais là, on peut facilement, dans ce tunnel de vol, qui doit faire à peu près 80 cm par 80 cm par 2 mètres dans sa longueur, on peut mettre à l'entrée un insecte exposé à un grand flux d'air et voir de quelle façon il vole. On peut même filmer la trajectoire de l'animal et se rendre compte que lorsque le papillon mâle suit une phéromone sexuelle, il a une façon de voler qui est très particulière.
C'est-à-dire ?
Il effectue des sortes de zigzags qu'il n'effectue pas lorsqu'il suit d'autres odeurs. Ça leur permet à tout moment de contrôler qu'ils sont toujours dans le panache odorant de la source d'odeur. Que des physiciens ont décrit, ce n'est pas du tout une sorte de cône avec un gradient où l'odeur serait de plus en plus faible. Non, ce sont des petits filaments d'odeur qui vont se disperser de façon plus ou moins autonome, de sorte que l'animal va de temps en temps percevoir des petites bouffées d'odeur qui vont s'interrompre, ensuite on va en percevoir de nouveau. Et en faisant ce zigzag, il va en quelque sorte échantillonner l'air, de sorte qu'il s'assure qu'il est toujours en train de remonter vers le flux d'odeur. Et si au bout d'un moment ils n'en perçoivent pas, ils changent encore leur façon de voler, ils commencent à voler en faisant des demi-tours sur eux-mêmes, des sortes de U sur eux-mêmes, de plus en plus larges, et là ils reprennent leur vol en zigzag s'ils détectent l'odeur. Et ça on peut l'observer dans la nature, avantage c'est plus naturel, non borné par les dimensions du tunnel, et inconvénient, c'est beaucoup plus compliqué, et le tunnel de vol c'est un peu le miroir, on est borné par les dimensions du tunnel, mais là par contre on peut nettement observer ce que fait l'animal.
Merci Céline Nozène. Nos reportages vont du studio pour se frotter à la science telle qu'elle se fabrique au quotidien. C'est notre collection La Science au Labo et c'est à podcaster sur l'application Radio France. Benoît Boichon, une réaction à l'écoute de ce reportage?
Oui, c'est super intéressant parce que c'est un petit peu la suite de notre travail, si vous voulez. Nous, on essaie de décrire de manière un petit peu biochimique comment les fleurs ou les plantes, elles produisent ces parfums, hein, au niveau de la description des enzymes et compagnie, ou un petit peu plus tard. Et maintenant, on se focalise sur le trafficking, leur transport, comment elles sortent de la cellule. Et là, c'est vraiment le travail en aval pour essayer de comprendre à quoi servent ces molécules pour que les plantes elles puissent s'adapter et vivre avec leur environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les plantes elles peuvent pas se déplacer en fait, et donc elles ont tout cet arsenal chimique de communication ou de défense. Donc, ça c'est très intéressant, c'est des choses que on a eu pu faire par le passé. Par exemple, on a montré que des molécules, parce que dans le bouquet par exemple d'une certaine fleur, il y a plusieurs molécules et certaines potentiellement vont attirer des pollinisateurs, mais d'autres vont par exemple repousser en fait des agresseurs. Et donc il y a cette bataille chimique pour essayer de choisir les hôtes qui vont visiter la fleur.
Une plante qui a un arsenal chimique corsé, Sylvie Bonino, c'est la rhum. Lui, ça c'est assez incroyable comme spécimen.
Oui, donc c'est une plante de la famille des aracées qui pousse en Europe. Hein, on en trouve dans nos forêts. Et donc on a débuté récemment un programme de recherche avec des collègues corses et autrichiens sur cette plante. Donc c'est une plante qui, là aussi, fait de la tromperie. Hein, elle fait un leurre. Et elle est pollinisée par des petites mouches qui normalement vont pondre dans des excréments, hein, dans des bouses de vache, enfin, ça dépend un peu des espèces. Et donc l'arôme va imiter cette odeur d'excréments et ça sent vraiment très fort la bouse de vache. Donc c'est une plante très intéressante parce qu'elle a un système de pollinisation un petit peu spécial. En fait, c'est pas une fleur, c'est une inflorescence. Et donc cette inflorescence, il y a une espèce de grande, quelque chose qui ressemble un peu à une feuille, qui enferme les cellules, les organes reproducteurs. Donc ils sont pas visibles. Mais de cette feuille sort une sorte de massue, hein, on appelle ça un appendice. Et cet appendice, il va chauffer, alors chauffer c'est vraiment chauffer, plusieurs degrés au-dessus de la température ambiante, et il va se mettre à émettre des odeurs. Et ça va se faire le soir à une heure bien particulière, et les mouches vont être attirées par cette odeur d'excréments. Elles vont tomber dans la spathe et elles vont être enfermées toute la nuit. Elles vont polliniser les fleurs femelles, parce que les fleurs femelles sont prêtes à être pollinisées à ce moment-là. Et le lendemain matin, L'aspate va s'ouvrir et va laisser repartir les insectes. Ces insectes, ils vivent une journée et le soir suivant, ils vont aller dans une autre fleur. Et là, elles, ce seront les fleurs mâles qui seront réceptives et ils vont se charger de pollen et polliniser, polliniser les fleurs. Et donc, voilà, c'est un système très spécifique avec une émission de parfum qui se fait grâce à la chaleur et qui se fait à un moment bien particulier de la journée. Moi, je me souviens, on avait ramené des arômes au laboratoire et on se disait, ça sent rien, en fait. Et vers 5 heures, dans tout le laboratoire, tous nos collègues sont venus nous demander, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur affreuse?
On arrive vers la fin de cette discussion, Benoît. Boichon, on a évoqué il y a quelques instants ces plantes parasitaires, les cuscutes qui parasitent les tomates, dont les branches poussent en direction de l'autre. Ça s'appelle le priming. Ça concerne davantage les feuilles que les fleurs, mais on peut quand même l'évoquer. C'est un domaine qui est moins avancé, qui est resté très longtemps controversé, mais aujourd'hui, c'est une certitude, Benoît Boichon.
Oui, tout à fait. Alors, je connais pas exactement, et je sais pas si on peut parler de priming dans cet exemple-là. Le priming, ça va plutôt être pour défendre.
Oui,
c'est une communication qui se fait. Oui, tout à fait.
Des mécanismes
c'est
de défense.
Soit entre feuilles d'une même plante ou bien entre feuilles de plantes différentes. Et en fait, quand elles sont attaquées, ou mordues par un insecte, elles vont émettre des composés volatiles qui vont aller être perçus par d'autres plantes à côté qui vont du coup les percevoir et engager un processus moléculaire qui va permettre en fait de mieux se défendre, soit plus rapidement ou directement des défenses directes en fait. Et ça c'est hyper intéressant de voir comment les plantes ont évolué ce genre de système en fait. Dans de l'évolution, en fait, pour pouvoir communiquer à distance sans pouvoir se déplacer.
Benoît Boichon, en effet, on a l'exemple aussi des acacias en Afrique du Sud avec ces antilopes. Enfin, c'est aussi un exemple qui a été dans justement ces mécanismes de défense.
Mais c'est un petit peu ce qui est raconté, c'est un petit peu le début de l'étude et de l'hypothèse en fait du rôle important de ces molécules en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des antilopes dans des ranchs et qui mangeaient des acacias. Et ils ont trouvé que ils étaient tous morts. Il y a eu des autopsies, ils ont regardé et en fait ils avaient le ventre plein, mais en fait ils n'avaient pas digéré. Ils ont regardé qu'en fait les feuilles d'acacia étaient remplies en fait de tanins qui empêchaient en fait la digestion. Ensuite, ils ont remarqué que les antilopes à l'état sauvage, qui vont se déplacer dans le sens du vent, hein, contre le sens du vent, pardon, peut-être parce qu'elles sont attirées justement par les odeurs d'acacia pour les manger, elles n'étaient pas atteintes par ce phénomène-là. Et ils ont découvert plus tard qu'en fait, les plantes qui étaient attaquées, en fait, ou qui étaient mangées, produisaient de l'éthylène et ensuite elles étaient induites à distance les autres plantes pour produire plus de tanins et se protéger contre les antilopes.
Et ça signifie, Sylvie Bonino, alors peut-être pas là pour les antilopes, mais pour l'exemple des cuscutes, pour conclure, on voit bien que nos connaissances finalement de ces composés organiques volatiles, ça peut avoir plein d'applications, notamment aussi pour l'agronomie.
Oui, alors les applications pour l'agronomie, c'est beaucoup tout ce qui a trait à la défense des plantes. On aurait envie, alors évidemment, on utilise de moins en moins de pesticides, hein, parce que de moins en moins de pesticides sont autorisés, et on a envie d'utiliser, alors, bon, les huiles essentielles, par exemple, des plantes. Il y a des gens qui essayent de voir comment on pourrait tirer parti de ces huiles essentielles pour lutter contre les ravageurs des plantes. Il y a aussi beaucoup un sujet qui est très, très en pointe, c'est tout ce qu'on appelle les plantes de service. Comment on peut utiliser des plantes qui émettent des odeurs dans un champ pour repousser les ravageurs ou éventuellement attirer les ennemis des ravageurs. Ça, on n'en a pas parlé, mais il y a tout un pan de recherche sur la défense indirecte, c'est-à-dire la plante, elle émet des odeurs pour attirer les ennemis de ces ravageurs. Et tout ça, c'est très, très, très en plein développement, on va dire.
En tout cas, merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. C'était passionnant. Tout de suite, on quitte les fleurs pour parler de flore intestinale, et on parle du microbiote des enfants. C'est la chronique avec science d'Alexandra Delbo.
Comment sonder le microbiote de l'enfance? Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des milliards de micro-organismes qui peuplent nos intestins. On sait qu'il nous aide à digérer, qu'il dialogue étroitement avec notre système immunitaire et qu'il est associé à de nombreuses maladies chroniques. Sa composition et surtout sa diversité reflètent notre santé. En 2022, un grand programme national piloté par INRAE et l'APHP, le French Gut, a commencé à cartographier le microbiote des Français. Des dizaines de milliers de volontaires ont déjà envoyé un échantillon de leurs selles, accompagné d'un long questionnaire sur leur alimentation, leurs habitudes et leur santé. Mais il restait un angle mort, les plus jeunes. Or, le microbiote des enfants n'est pas une version miniature de celui des plus grands. Alexis Mosca est gastropédiatre à l'hôpital Robert Debré de la PHP, chercheur dans l'équipe INSERM Inflammation Intestinale de l'hôpital Bichat et l'un des responsables scientifiques du projet French Gut Kids.
Le microbiote des enfants, c'est pas du tout une version simplifiée du microbiote des adultes. Il faut voir ça comme un écosystème qui se crée. À la naissance, il n'y a pas de microbiote. Et dès l'instant où l'enfant naît, naît de façon simultanée tout son écosystème, à la fois intestinal, mais aussi sur les autres surfaces de son corps et ses muqueuses. Et en quelques jours, il est colonisé par des milliards de bactéries. Et dans la naissance de cet écosystème, il y a une succession d'espèces microbiennes qui sont pas du tout stochastiques, qui sont très spécifiques à l'enfant, en particulier un microbiote initialement très riche en bifidobactéries et très peu diversifié. Et puis ce microbiote va progressivement, au cours des semaines, des mois et des années, se complexifier et se stabiliser, devenir de plus en plus donc proche de celui d'un adulte. On estime vers l'âge de 3 ans à peu près, on a un écosystème qui est à peu près les mêmes caractéristiques en termes de diversité que celui d'un adulte.
On sait que l'accouchement, l'alimentation des premiers mois ou encore l'environnement familial, avoir des frères et sœurs ou des animaux domestiques, influence la composition du microbiote. La trajectoire qu'il prend dans les deux premières années de vie est associée plus tard à certaines pathologies et à 3 ans, la diversité de la flore est semblable à celle d'un adulte. Mais elle n'est pas figée pour autant. Que se passe-t-il après, quand les enfants grandissent? Comment le microbiote évolue-t-il? C'est exactement ce que le projet French Gut Kids, une extension du grand projet French Gut Adulte, cherche à documenter. Et ce sont les mêmes modalités, le même protocole. Les familles s'inscrivent en ligne, reçoivent un kit de prélèvement de selles, et les parents d'enfants et d'adolescents âgés entre 3 et 17 ans remplissent un questionnaire. Il est un peu adapté par rapport à celui des adultes. Ici ont été ajoutées des questions sur la diversité de l'alimentation. Par exemple, est-ce qu'ils mangent souvent des fruits, des légumes, des légumineuses, des produits laitiers ou encore des bonbons, biscuits, pâtes à tartiner et autres produits transformés et sucrés. Les adolescents de plus de 15 ans ont une partie supplémentaire à remplir à eux seuls sur leur pratique de sport, leur anxiété, des éventuels troubles du sommeil et également sur leur changement corporel lié à la puberté. Et derrière ce large dispositif, il y a 3 grands objectifs scientifiques.
Alors, le premier objectif, c'est vraiment de lever le voile sur le microbiote des 3-17 ans, d'avoir une cartographie la plus large, c'est pour ça qu'on vise 10 000 enfants, et voir comment les facteurs d'environnement, l'alimentation, le mode de vie influent sur cette composition du microbiote intestinal. Ça, c'est un premier objectif qui est très descriptif. Le deuxième objectif qui est pour nous capital, c'est que beaucoup de maladies chroniques qui vont se développer plus tard dans la vie peuvent commencer en tout cas à cet âge. Et donc, on va essayer de voir s'il y a des caractéristiques du microbiote qui prédisent le développement de maladies plus tard. Et ça, pour pouvoir à terme, on l'espère, donner des messages de prévention un petit peu personnalisés en ciblant particulièrement le microbiote intestinal.
Le dernier objectif, c'est la sensibilisation. En fait, les scientifiques en profitent pour apprendre aux enfants, avec de la médiation sur Internet et dans les écoles, qu'être en bonne santé, eh bien, ça passe aussi par le microbiote. Et puis, faire participer les futures générations à une grande étude scientifique, c'est aussi expliquer ce qu'est la science, qu'est-ce que la méthode scientifique et comment on obtient rigoureusement des résultats. Au total, 10 000 échantillons de microbiote des petits Français et Françaises seront collectés à l'horizon 2029. Du côté des adultes, cette fois, la barre des 30 000 participants participants a été franchie. Les analyses débutent tout juste et les premières publications arriveront à la fin de l'année prochaine. Mais on connaît déjà le profil des donneurs et ce sont principalement des donneuses. 69% des volontaires sont des femmes âgées entre 30 et 70 ans. Et donc, le projet French Gut cherche hommes désespérément. Si vous voulez faire avancer la recherche, il vous suffit de vous rendre sur le site du microbiote français, le French Gut.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.